Chapitre 24. La maîtrise du choix. J'ai laissé passer quelques instants après que Diane a cherché son patient, afin d'éviter de donner l'impression que nous étions de connivence pour leur offrir ce petit moment d'intimité en salle d'attente. Quand j'ouvre la porte, Capucine Claudel est en train de frotter avec vigueur sa jupe noire. Vous avez fait connaissance avec Bloom ? En dehors du fait qu'il perde ses poils, c'est un gentil chien, n'est-ce pas ? Oui, il fait du bien rien qu'à le regarder. Savez-vous pourquoi ? Elle est encore en train de rejoindre le fauteuil quand je lui pose la question. J'aime rebondir sur ce genre d'affirmation en apparence anodine. Il ne me juge pas. Il n'attend rien d'autre que moi, que quelques caresses et des mots gentils. C'est reposant. Qu'attend-on de vous ? Et qui ? Elle réfléchit. Souvent, les patients n'ont pas conscience jusque-là qu'ils sont seuls à se mettre cette pression démesurée. Que je sois forte ? L'êtes-vous ? Je crois, oui. Mais j'ai parfois envie qu'on accepte que je ne le sois pas. L'acceptez-vous vous-même ? Non. Elle me parle de ce choix sans option après l'accident. Elle gardait sa petite sœur à la maison. Le message de son père pour lui annoncer qu'il quitte le restaurant vers minuit. L'inquiétude de ne pas les voir arriver qui commence à s'installer vers minuit 30. L'appel sur le portable qui ne répond pas. Une deuxième fois. Et à la troisième, un gendarme qui décroche. Ils ont eu un accident. Je ne peux rien vous dire par téléphone. On vous envoie quelqu'un. L'attente terrible de ce quelqu'un pour donner des nouvelles. Savoir qu'Adélie dort à l'étage sans se douter de rien. Quand la patrouille s'égarait devant notre porte, je me sentais à la fois libérée du doute et soudain prisonnière d'autre chose. Une nouvelle vie sans la leur, je le savais. Si les gendarmes se déplaçaient en personne, c'était pour m'annoncer leur mort. Ils m'ont demandé s'il fallait prévenir quelqu'un. Je leur ai seulement demandé de passer chez notre oncle. Nos grands-parents ne vivaient pas dans la région. Il était 2 heures du matin, je ne voulais réveiller personne. Ils sont restés un peu, mais je ne pleurais pas. J'étais en état de sidération, je crois. Je pensais à l'après, à ma petite sœur et à mes études de médecine. Quand Bertrand est arrivé, les cheveux en bataille et les yeux gonflés, je me suis tournée vers lui et j'ai éclaté en sanglots dans ses bras. Il sentait l'alcool et la cigarette, le mauvais sommeil et le célibat. Mais il était le seul porche sous lequel je pouvais m'abriter de l'orage de grêle qui m'assommait. Et votre petite sœur ? Elle s'est réveillée, tôt. Je dormais sur le canapé. Mon corps avait sombré dans un refuge d'oubli pour me permettre de tenir debout quand il faudrait l'annoncer à Adélie. Bertrand m'a doucement secoué l'épaule quand il l'a entendu descendre. Mon annonce a été pire pour moi que celle des gendarmes. Comme si, en lui expliquant le drame, je l'ai tué une deuxième fois. Quand elle m'a demandé comment nous allions faire, je lui ai répondu sans réfléchir que nous resterions dans la maison et que je prendrais soin d'elle. Qu'est-ce que je pouvais lui dire d'autre ? Qu'elle allait être placée parce que je n'avais pas le temps ? Impensable pour moi. Et votre oncle ? Il n'avait aucune expérience avec des enfants, il travaillait à l'usine, en équipe, et puis il était alcoolique. Et vous n'auriez pas pu poursuivre vos études avec son soutien partiel ? Vous avez fait médecine, vous savez bien qu'on n'a plus de vie pendant les études. Et vos grands-parents ? Trop âgés et trop loin. J'aurais été séparée d'Adélie ? Je ne l'imaginais même pas. Son récit est simple, incisif, sa démonstration implacable. Je la vois qui relie le serment d'Hippocrate accroché derrière mon bureau. Un tableau que ma maman m'a offert pour fêter mon passage en 2e année. Elle l'avait recopié en calligraphie. Capucine doit le connaître par cœur à force d'avoir rêvé de le prononcer un jour. Elle est absorbée sans même s'en rendre compte. Je la laisse terminer. Elle revient à la réalité de mon cabinet dans un discret sursaut et des excuses dans les yeux. Je voulais perturber le moins possible son existence de petite fille. La laisser dans la même école, avec ses copines, ses petites voisines, ses repères, ses attaches. Le reste allait déjà être si violent. Mais vous, moi, je n'avais pas le choix. N'a-t-on pas toujours le choix? Je ne pouvais imaginer aucun autre scénario pour elle. Et c'est aujourd'hui que vous n'acceptez pas sa décision. Je n'ai pas le choix non plus. Qu'est-ce qui vous a fait tenir tout ce temps? L'idée que mon père et Rachel auraient voulu cette solution. Avez-vous un peu lu son journal? Elle baisse les yeux. J'ignore si elle veut me cacher une éventuelle culpabilité ou l'émotion profonde de s'y être plongée. Je lui suggère de me lire un extrait choisi. Elle me parle du dernier jour, de sa colère, des hurlements dans la nuit. Je me réjouis qu'elle ait pu extérioriser son ressenti. Nombre de patients ont des cris coincés dans le ventre qu'ils n'oseront jamais laisser jaillir. Ils les gardent en eux, les trimballent comme des boulets d'une tonne, quand ces colères tuent, ne se transforment pas en maladie. Capucine a décidé de piocher au hasard. 15 mars 2003. Nous avons fêté les 13 ans de Capucine. Elle avait invité quelques amis pour l'après-midi. Ses copines s'extasiaient devant les yeux malicieux d'Adélie qui va sur ses 2 ans et qui saute partout à l'affût de la moindre bêtise. J'ai cru déceler dans le regard de ma grande une pointe d'agacement, comme si elle avait envie de leur crier qu'elle existait aussi, que c'était son anniversaire à elle. Et puis, se raviser la seconde d'après et endosser sa cape de gentille grande sœur aux petits soins pour tout le monde. Elle a reçu du maquillage et du parfum pour attirer les garçons. Je l'ai vu rougir. Nulle petite amie, semble-t-il, dans sa vie. Je crois qu'elle n'y songe même pas, trop occupée à travailler ses cours pour réussir. Elle est désespérée quand sa moyenne générale descend en dessous de 17. J'ai beau lui dire qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite, rien n'y fait. Elle s'est mise en tête de réussir la première année de médecine du premier coup, ce qui est rare. Je lui ai offert un stéthoscope et 2 manuels, l'un d'anatomie, l'autre d'embryologie. J'ai vu ses yeux pétiller en ouvrant les emballages. Je sais qu'elle les lira tard le soir, pour apprendre, comprendre, avoir de l'avance sur les autres. J'aimerais quand même qu'elle pense à vivre. Un jour, on se réveille en se disant qu'il est trop tard. Capucine referme le cahier et regarde ses genoux. Elle ne dit rien. Il n'est pas anodin de lire le journal de son enfance, vu par la personne qu'on a le plus aimée au monde. Pourquoi cherchiez-vous tant à être parfaite? J'étais contente d'avoir des bonnes notes. Que se passe-t-il quand on rate? Capucine? On risque de décevoir. Et si on déçoit? On risque de ne plus être aimé. Excusez-moi, Capucine, vous avez quelque chose qui bouge dans vos cheveux? Elle se penche en avant pour inspecter sa chevelure, saisit délicatement une petite abeille entre ses doigts et se lève pour la libérer à la fenêtre. Vous n'avez pas peur des petites bêtes? Non, je devrais. Pas du tout, mais vous sembliez très sereine, d'autres auraient paniqué. À cette saison, les rares abeilles qui sortent encore sont un peu amorphes. Avez-vous été amoureuse à cette époque? À l'adolescence, je crois pas. Aucun ne me convenait. J'ai trouvé tous idiots et futiles. Vous aviez peur là aussi de décevoir votre père? Peut-être. Cela dit, je l'ai trouvé vraiment immature. L'avez-vous été plus tard? Une fois, quelques années après l'accident, mais je ne voulais pas que cette relation perturbe Adélie. J'y ai mis fin après quelques mois. De voir sa grande sœur amoureuse aurait vraiment pu la perturber? Je ne sais pas, j'étais seule pour tout décider. Tout maîtriser? Oui, tout maîtriser, je n'avais pas le droit à l'erreur, j'avais la responsabilité d'une petite fille. On va s'arrêter là. Je vais vous demander un petit travail pour la prochaine fois. Écrire dans deux colonnes ce qu'on maîtrise et ce qu'on ne maîtrise pas. Elle referme son agenda après avoir noté la date du rendez-vous et range ses affaires en silence. Certains patients meublent cet instant de paroles futiles. Capucine, non. Elle a expérimenté un vide bien plus abyssal. Un vide sans fond, sans fin. Comme si à ses pieds s'ouvrait un trou béant qui traversait la planète tout entière et au travers duquel elle pouvait voir le reste de l'univers. Une planète en forme de grosse perle ronde. Alors elle peut bien enfiler son manteau sans un mot. Je rejoins Diane qui regarde dehors, dissimulée derrière le rideau, son café fumant à la main. Elle dégouline en silence, comme si elle faisait fi de cette nouvelle bouffée de chaleur qui s'ajoute à celles qui l'envahissent depuis quelques semaines, à un rythme soutenu et aléatoire. C'est mignon, il l'a attendue de l'autre côté de la rue et l'a envoyé Bloom lui déposer un bout de papier dans la main. Tu crois que c'est un mot doux? Tu arrêtes de les espionner. Ils ne s'en cachent pas, ou bien? Ou bien, laissons-les se rencontrer en paix si cela doit avoir lieu. Et ouvre donc cette fenêtre si tu en as besoin. Tu sais bien que la chaleur vient des tréfonds de mon corps et qu'un peu d'air sur les joues ne change pas grand-chose au malaise. Parfois, je me dis que les névroses de nos patients sont comme tes bouffées de chaleur et que nous, psy, ne sommes qu'un petit souffle d'air frais sur leurs joues. C'est justement ce que je regardais par la fenêtre avant que tu n'arrives. Un petit vent agréable que nous avons soufflé sur leurs joues respectives. Tu crois qu'ils vont se plaire?